Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes, tout compris avec un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau présentée aujourd'hui par Pierre Hiverna, le directeur de la plateforme des cultures du goût alimentation générale, notre partenaire. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Alors je lis sur votre page de chronique Pâques. Trois mots. Je me dis, oulala, sujet ennuyeux au possible, mais je suis sûre que vous allez rendre ça passionnant. Donc, vous allez nous parler de ça.
Je vais essayer. J'ai trouvé un moyen, en tout cas, me semble-t-il.
Pâques.
Pâques, politique agricole commune.
Tout à l'heure, à 12h25. Cher Mathéo Caranta, bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Qui donc nous raconte sa madeleine ce midi ?
Bien, j'ai la chance de rencontrer l'artiste Ernest Pignon. Ernest qui m'a rencontré dans son atelier à Paris, mais nous, on a plutôt parlé de ses nouveaux souvenirs niçois.
Et la madeleine, c'est donc tout à l'heure, à 12h15. Et pour notre plat du jour aujourd'hui, honneur à la cuisine d'une chef qui vient de retrouver ses deux étoiles pour un restaurant parisien qu'elle a ouvert il y a 4 mois seulement, après les avoir obtenus une première fois en 2019. Et les amateurs de Top Chef se souviennent aussi de sa victoire en 2011.
Après 10 semaines de compétition, c'est maintenant que tout va se jouer. Stéphanie, Fanny, après mon top, lorsque vous dévoilerez la lame, celle qui aura dévoilé une lame dorée aura remporté la finale de Top Chef 2011. C'est Stéphanie qui décroche le titre de Top Chef 2011.
Troisième chef auquel nous remettons sa deuxième étoile aujourd'hui, c'est une chef avec deux F-E.
Absolument, et je me suis laissé dire qu'enfant, elle préférait préparer des crêpes plutôt que jouer à la poupée.
Et elle aime travailler dans les palaces. Est-ce que la salle a deviné ? Je vous laisse l'annoncer.
Restaurant La Seine, Stéphanie Lekelec.
Et voilà, j'ai plus rien à dire à part bonjour et bienvenue.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Que de souvenirs.
Des bons souvenirs ou pas ?
Évidemment, des souvenirs
dans les deux cas.
Dans les deux cas.
Alors ça, c'était 2019 pour les étoiles Michelin. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Vous les avez eues, puis après vous les avez perdues, puis vous les avez retrouvées. Et donc, vous les avez re-eues là en janvier.
Alors, je les ai eues, je les ai pas perdues, mais le Prince de Galles a décidé de fermer le restaurant gastronomique dont j'étais le chef pas très longtemps après les étoiles.
Donc, et comme on part pas avec.
On part pas avec. Donc, effectivement, qu'à cela ne tienne, plutôt que de partir ailleurs, j'ai décidé de me lancer dans des aventures très personnelles, d'ouvrir ma maison. Et effectivement, au bout de 3 mois et demi d'ouverture, nous avons raccrocher nos deux étoiles.
Oui, c'est ça, raccrocher. Et d'un coup.
D'un coup.
Les deux d'un coup.
D'un coup, bah, c'était un objectif quand même très personnel.
C'est rare quand même d'avoir les deux d'un coup.
C'est rare et en même temps, on s'y était préparé. L'équipe a travaillé d'arrache-pied et on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et comme quoi la passion et le travail, ça paye.
Alors, il y a 15 jours, dans Les Bonnes Choses, on a fait un débat autour du guide Michelin, de ce qui s'était passé par rapport à la rétrogradation de Monsieur Paul, de Feu Paul Bocuse, bien sûr, mais pour son auberge, de Collonges au Mont d'Or. Et je voudrais qu'on aborde ensemble, juste rapidement, ces sujets qui fâchent. Pour vous, Stéphanie Lekelec, les étoiles, c'est un Graal, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous travaillez presque pour obtenir des étoiles ou vous faites partie de cette génération qui dit « Écoutez, moi, je veux retrouver du sens, je veux être libre. » Et puis finalement, les étoiles, bon, bah, si je les ai, je suis contente. Mais si je ne les ai pas, c'est pas la fin du monde.
Alors un peu les deux. On travaille pas pour les étoiles. On travaille d'abord pour nos clients. On travaille parce que ce sont eux qui nous font vivre, parce que la cuisine, c'est du partage et qu'on a quelque chose à raconter dans l'assiette et qu'on a envie de la raconter à nos clients. En revanche, je pense, et peut-être à contre-courant d'ailleurs de certains chefs de ma génération, que le guide Michelin reste une référence. Qu'on le veuille ou non, ça reste un baromètre assez fort pour les clients français, mais pour les clients étrangers. Ça reste un Graal pour les chefs, clairement. Quand on a été élevé dans des brigades étoilées, souvent, on a envie quand même soi-même. Il y a une forme de reconnaissance de travail, d'ouvrier. C'est un métier de besogneux. Et il y a quand même, oui, bien sûr, une forme de Saint Graal. Donc, quand elle tombe, on est quand même, en tout cas pour ma part, bien heureux.
Et l'idée de remettre en cause les étoiles tous les ans, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je trouve que c'est juste. Je trouve que dans la vie, il n'y a jamais rien d'acquis et que je trouve assez sain de toute façon de se remettre en question. On le fait 2 fois par jour, hein, à chaque service.
Mais justement, est-ce que vous avez besoin de
restaurant ? On se remet en cause et en question. Il y a des fois, on performe un petit peu moins bien. Alors après, je suis très triste, hein, bien sûr, de ce qui s'est passé à l'auberge, parce qu'évidemment, j'adore cette maison. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Paul. Je connais quelques membres de l'équipe là-bas, donc on a eu une pensée pour eux, mais je n'ai nul doute que très très rapidement, ils vont savoir reconquérir leurs 3 étoiles Michelin et les raccrocher au-dessus de cette belle maison.
Alors je disais, Stéphanie Lequellec, que c'est un sujet qui fâche, qui réjouit aussi hein, la sortie du guide Michelin chaque année. Il y en a un autre qui pour vous n'est pas un sujet, mais qui peut être un sujet en soi. C'est la place des femmes dans la gastronomie française. Éternel sujet, marronnier vous allez me dire, mais en même temps peut-être sujet qui compte. Il n'y a que 5% des femmes récompensées sur les 630 établissements sélectionnés. Vous en êtes une heureuse élue. Anne-Sophie Pic est encore la seule femme chef 3 étoiles en France. Bon, voilà, donc ça n'est pas pour vous personnellement un sujet important, mais est-ce que vous pouvez considérer que ça l'est en soi dans la société?
Je peux comprendre que ça l'est. Maintenant, c'est très factuel. 5% de femmes récompensées, certes, mais de toute façon, globalement, dans la profession, peut-être 15% de femmes, 20% vraiment en tirant au maximum. Donc, quelque part, c'est assez logique. La corrélation entre le nombre de femmes récompensées et le nombre de femmes chefs aujourd'hui, c'est assez cohérent. Après, effectivement, on voit quand même l'arrivée hein, de nouvelles femmes chefs qui accèdent maintenant à des postes, effectivement, parce que on a su aussi adapter le milieu, parce qu'on a su le rendre un petit peu plus accessible, un petit peu, on a changé un peu les méthodes de management. Ça reste un métier difficile, ça reste un métier où il faut un caractère bien trempé, et ça reste surtout un métier où il faut avoir un conjoint qui comprennent. À la question souvent, comment expliquez-vous cela ? Bah, il arrive un moment où dans la vie d'une femme arrive la question de se marier, d'avoir des enfants, etc. Donc moi, ma chance, c'est d'avoir un mari depuis 16 ans avec qui nous avons 3 enfants, mais qui fait 50% du job à la maison et avec les enfants. C'est ce qui m'a permis de mener, et ce qui me permet encore aujourd'hui de mener ma carrière. Donc il faut un partenaire de vie qui comprenne ça et qui joue le jeu. Et c'est de ça dont les jeunes femmes ont besoin aujourd'hui, parce que elles ont des postes. Hein. Moi, dans ma enfin, sur 6 cuisiniers, j'ai 2 jeunes femmes. Bon, on est à un bon 30%, ce qui n'est pas ridicule. Mais je suis persuadée que si demain, la question des enfants se pose, il faudra qu'elles aient un conjoint qui joue le jeu, parce que sinon, elles devront arrêter leur carrière.
Votre conjoint, en l'occurrence, Stéphanie Lequellec, qui cuisine aussi, si je ne m'abuse.
Il est effectivement du Moulin Rouge à
Paris. Alors, qui c'est qui cuisine à la maison au quotidien?
Là aussi, question. Nous, la cuisine, c'est notre vie. Je veux dire, ça fait partie intégrante. On s'est connus en cuisine, on pense, on vit cuisine. Donc, c'est assez collégial, en fin de compte. Hein. De la même façon que c'est du partage, c'est aussi du partage à la maison, donc parfois...
Bah, un jour l'un, un jour l'autre, ou vous pouvez faire à deux en même temps?
Non, ça c'est assez naturel et on prend beaucoup de plaisir à cuisiner ensemble, et je dirais qu'on a travaillé 8 ans ensemble d'ailleurs, et de plus en plus on a plaisir à refaire des choses ensemble autour de la cuisine.
Alors l'argument du guide Michelin pour vous donner les 2 étoiles pour la Seine, hein, avenue Matignon à Paris, ça a été de récompenser une partition, je les cite, en tout point formidable, avec des assiettes simples en apparence, mais pensées dans les moindres détails et des saveurs nettes et franche. Vous êtes d'accord avec ces adjectifs?
Alors, je suis complètement d'accord. Et depuis 7 ou 8 ans maintenant que j'ai le bonheur de figurer dans le guide Michelin, je trouve que le mot des inspecteurs n'a jamais été aussi juste que cette année. Dans ces quelques phrases et dans le paragraphe qui est écrit dans le guide 2020, je trouve qu'ils ont parfaitement ressenti l'âme de la maison, ce que j'ai voulu faire dans les assiettes, dans le décor, dans le service. Et je trouve que c'est un reflet assez parfait et saisissant de l'expérience que les clients vivent.
Vous, sur le site de la Seine, on peut lire que vous proposez une table désacralisée, chic et vivante. J'aimerais bien que vous nous développiez ce que vous vous entendez par là. C'est quoi une table désacralisée?
Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'emmener... Vous savez, on entend beaucoup, oui, mais le guide Michelin, c'est fini. Bon, on l'entend d'ailleurs en temps de polémique, comme il y a une quinzaine de jours. Oui, mais le guide Michelin, c'est fini. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est à nous, à ma génération de chefs, de réfléchir. Le restaurant étoilé, le restaurant gastronomique, le format de restaurant de demain, qui s'inscrivent dans les 15 ans à venir. Donc, effectivement, pour ça, il faut être force de proposition. Il faut se poser la question de comment on aime consommer aujourd'hui. Moi, j'ai 38 ans, je me considère comme la cible de mon restaurant. Quand j'ai ouvert mon restaurant, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de retrouver? J'ai envie de retrouver, bien sûr, une très belle assiette avec des saveurs simples, directes, des grands produits parfaitement cuisinés. Mais ça ne me suffit pas. J'ai aussi envie d'un décor. J'ai aussi envie d'un service qui corresponde à l'époque. C'est-à-dire que j'ai plus envie d'avoir 4 serveurs autour de moi qui m'attendent avec une panière de pain. Vous préférez la baguette, le petit pain céréal, etc. Un pain qui, finalement, n'est même pas servi chaud. Donc, nous, on préfère le partage. Donc, la définition de ma maison, c'est vraiment d'essayer de faire les choses dans l'esprit du partage. Donc, le pain, il est chaud, il sort du four, il est croustillant, on vous le coupe en 4, on amène ça dans l'esprit du partage. Le client se sert. Voilà, on essaye d'alléger un petit peu toutes ces séquences de service pour lesquelles on continuera d'aller dans des maisons qui sont des institutions, mais qui, je crois, ne correspondent plus à l'époque.
Qu'est-ce que ça change, Stéphanie Lequellec, de passer d'une cuisine de restaurant dans un hôtel de luxe, il y en avait plusieurs, hein, vous êtes passé au Georges V, au Four Seasons, au Prince de Galles, à un lieu à soi?
J'ai envie de vous dire, ça change tout. J'ai adoré être chef de beaux hôtels et de palaces. Je dirais même que tout ce que j'ai fait avant la scène de l'avenue Matignon dans ma vie m'a inconsciemment préparé à ce que je vis aujourd'hui. Mais être dans sa maison, ça change tout. En fait, on met une part infinie de soi, on fait tout. Le seul moteur, c'est le cœur, en fait. Il y a plus personne au-dessus, si ce n'est le banquier, pour vous dire « bah non, là, tu peux pas faire ça ». Il n'y a pas d'interdit, il y a seulement les limites que je me mets. Donc effectivement, ça demande aussi beaucoup plus d'implication, ça c'est sûr. Mais c'est un vrai bonheur du quotidien de recevoir les clients, comme je reçois mes amis dans mon appartement. En fait,
c'est un peu à la maison, quoi.
C'est complètement ça. Et quand on parle de désacralisation, on parle de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accueille chaque client, on échange vraiment. Je vais à chaque table, une fois, deux fois, je les raccompagne à la porte, comme quand vous raccompagnez vos amis à la fin d'un dîner.
Bon, c'est un peu à la maison, mais c'est avenue Matignon. À Paris. Pourquoi ce lieu? Pourquoi ce quartier?
D'abord, bon, ça faisait 7 ans que j'avais développé une clientèle. Malgré tout, ça fait 7 ans que je suis chef à Paris. Et donc, il y avait des clients qui aimaient venir à notre table. Et c'était important pour moi de cultiver cette clientèle. Donc, il fallait pas l'emmener trop loin. Je cherchais quand même globalement dans le 8e arrondissement, une partie du 17e. Et puis, lorsque j'ai visité ce lieu, bah, coup de cœur sur l'adresse parce qu'on est en plein cœur du village Saint-Honoré. Et je dis bien village parce qu'il y a ce côté vraiment vie de quartier, avenue Matignon. On a beaucoup de galeries. Il y a beaucoup de gens qui y vivent également et je trouve intéressant de développer cette clientèle de quartier et de village.
Est-ce que vous nous prendriez par la main, Stéphanie Lequellec, pour nous faire visiter votre chez-vous, la Seine, avenue Matignon à Paris? Si on pousse la porte, on arrive...
On pousse la porte, 32 avenue Matignon, on arrive dans le bar d'abord, une première ambiance, un grand bar en laiton, très lumineux, très clair, des boiseries du chêne très clair au plafond, de la mosaïque au sol, travaillée. Et là, on a 20-25 couverts, dans un esprit un petit peu bistrot, dans un esprit cuisine du marché, facile, avec un menu très accessible, qui change toutes les semaines. Et puis ensuite, on va s'immerger vers la table étoilée. Donc là, on descend quelques marches et on arrive dans le cocon. On arrive dans le pont inférieur, la cuisine complètement ouverte. Donc là, la scène prend son sens puisqu'il y a ce côté très théâtral. La cuisine
on va y revenir après
complètement la Madeleine, oui. Ouverte sur la salle avec un côté vraiment très scénique. Et puis là, 28 couverts, du tissu tendu ivoire très chaud sur les murs, beaucoup de laiton, de l'onyx du Mexique dans les tons verts d'eau, des matériaux simple, mais léché, et puis on essaye de vraiment mettre les clients dans une bulle.
C'est à ça que vous rêviez quand vous étiez petite. Vous avez commencé tôt, hein, parce que vous avez fait l'école hôtelière à 14 ans, oui. Donc on peut dire toute petite déjà. Stéphanie Lequellec avait envie de faire de la cuisine, en faisait déjà.
J'en faisais,
et vous rêviez d'un endroit comme ça? Comme si vous aviez aujourd'hui.
Non, honnêtement, jamais j'aurais pu.
Vous rêviez de faire un bon gâteau déjà.
Oui, voilà. Je veux dire, tout pourrait s'arrêter aujourd'hui. J'ai le sentiment d'avoir déjà tellement eu, tellement gagné que moi j'avais des ambitions beaucoup plus simples. Je viens d'un milieu modeste. J'ai jamais mangé dans un restaurant étoilé avant l'âge de 19 ans.
C'est tôt 19 ans, dites donc. Il y en a qui vont manger dans un restaurant étoilé à 40, à 50.
C'était à la fin de mon stage. D'ailleurs, c'était à la fin d'un stage. C'est d'ailleurs un petit peu là que j'ai la révélation. Mais moi, petite, c'est vrai que mes jeux de petite fille sont faire des petits sablés. Et des crêpes en rentrant de l'école chez ma grand-mère. Puis à l'âge de 14 ans, sans ambition particulière, je voulais juste faire de la cuisine et ouvrir un bon bistrot où j'aurais fait des filets de sole en brioche et des steaks au poivre à deux en cuisine et ça m'aurait très bien allé. L'ambition, d'abord après je me découvre une forme de capacité en fait, donc on sent que j'ai quelque chose dans les mains, donc après ça se développe. Et puis la révélation quand j'arrive en stage au Georges V, là, la brigade, 80 cuisiniers, une discipline quasi militaire.
Philippe Legendre.
Triple gendre, ils viennent d'obtenir 2 étoiles Michelin, on va pour chercher la 3e étoile. Là, c'est la révélation pour moi. La révélation sur l'univers du luxe, sur la rigueur, sur l'exigence. Et puis là, pour le coup, je me découvre la compétence de pouvoir évoluer dans ce milieu-là. Et à partir de là, tous mes choix après ont été dirigés pour moi aussi peut-être un jour toucher à ça.
Alors, on parlait de votre enfance, Stéphanie Lequellec. On va vous emmener en enfance avec nous puisqu'on va écouter la Madeleine. La Madeleine présentée par Matteo Caranta. On vous retrouve juste après. À tout de suite. Matteo Caranta, la Madeleine d'un artiste de notre temps.
Oui, Ernest Pignon, Ernest de notre temps, qui est exposé au Palais des Papes à Avignon jusqu'au 29 février dans une rétrospective qui retrace son travail depuis le début des années 60. Ernest Pignon, Ernest, vous savez, on le compare souvent à Basquiat ou à Banksy. On le présente souvent comme le précurseur de l'art de rue en France, du street art, voire peut-être dans le monde. L'artiste, il pose ses figures qu'il peint en pochoir sur des affiches comme autant de moyens de dénonciation poétique, politique et de création fictive. Moi, j'ai pu le rencontrer à Paris dans son atelier et pour la Madeleine, eh bien, il est remonté à l'enfance, et son enfance, c'est l'odeur qui emplissait sa chambre d'enfant dans le Vieux-Nice.
Ma madeleine, c'est la pissaladière. Et même plutôt l'odeur de la pissaladière. C'est-à-dire l'odeur des oignons en train de cuire. Parce que c'est vraiment mon souvenir, moi, très très fort. Parce que de toute mon enfance, de ma naissance jusqu'à 19 ans, ma chambre donnait au-dessus de la cuisine. Alors pour les Niçois, c'est presque un mythe. Hélène Barral, c'était le restaurant le plus populaire de Nice, vraiment la référence pour tous les plats niçois. La soque, la pissaladière, les tartes de blettes et tout ça. Et ma chambre donnait au-dessus de sa cuisine. Et donc, dès le matin, elle faisait cuire les oignons pour la pissaladière. Et ça s'appelle pissaladière parce qu'en général, on met des anchois dessus. Des petits anchois au sel, comme ça. La pissaladière, c'est de la pâte à pain, mais à l'huile d'olive, qui est nappée d'un confit d'oignons qui ont cuit très longtemps, qui sont restés dorés. Il ne faut pas qu'ils noircissent, quoi. Ils ont une très belle couleur. Ils sont rose doré et ils ont une odeur, un parfum qui correspond à cette couleur. C'est assez indéfinissable parce que c'est à la fois, ce sont des oignons, mais ça devient presque sucré en cuisant doucement. C'est presque caramélisé. C'est vrai qu'on pense tous que la pissaladière de nos mères est la meilleure. Ouais. On est élevé avec ça. Et ma mère faisait des pissaladières quand nous étions à la campagne. Et c'était très beau parce qu'il n'y avait pas de four là. On allait la faire cuire chez le boulanger après qu'il ait sorti le pain. Et chaque famille arrivait avec sa pissaladière. Et c'était très beau parce que c'était comme une procession, surtout que c'était souvent après la messe, la procession qui allait chez le boulanger avec des torchons par-dessus. Et chaque famille mettait avec de la pâte les initiales parce que ça risquait de se confondre. Tout le monde avait un peu les mêmes plats. Donc c'était vraiment très très beau. Pour moi, c'est l'odeur de Nice parce qu'il y a un mélange d'odeur d'huile d'olive et des oignons. Dès que je sens ça, je revois la ruelle de mon quartier de Nice. J'entends même le bruit de cette rue. Les gens qui parlent dans la rue, cette chose de Nice très populaire, quoi, vous voyez. Il y avait même un carrossier. Tout me revient en même temps. L'odeur déclenche quelque chose de plus vaste, de plus complexe. Une espèce de truc qui embaume, qui investit tout l'espace. Une chose de cet ordre.
Très jolie madeleine d'Ernest Pignot.
Magnifiquement raconté. Hein.
Bravo Mathéo.
Et bravo à Ernest Pignot, Ernest, et à Jean-Christophe Francis, le réalisateur.
Alors, Stéphanie Lequellec, on entendait parler de cette odeur de pissaladière, une odeur de son enfance près de Nice. J'avais envie de vous demander quelle était la vôtre de madeleine quand j'ai lu, pour préparer cette émission, que vous en donniez deux. Vous allez peut-être nous en donner une troisième.
Alors, écoutez, là, d'instinct comme ça, je vous dirais le pot-au-feu.
Oui, il y en avait une, c'était le pot-au-feu. Et l'autre, c'était justement une odeur. C'était l'odeur du figuier chaud sur les îles de l'Hérens.
Oui, exact. Ouais. Ça, c'était les vacances l'été. Alors, pas très loin de Nice, hein, d'ailleurs, en l'espèce. Et effectivement, à la tombée de la nuit, le soir, comme ça, l'île se vidant. Nous avions la chance de faire du bateau, donc on restait dormir sur l'île, sur le bateau. Et alors là, l'île déserte, le figuier qui a chauffé toute la journée donnait des effluves absolument merveilleuses.
Et le pot-au-feu ?
Bah, le pot-au-feu, ça, pour le coup, c'était le plat du dimanche midi. Je me mettais avec maman en cuisine, on épluchait les légumes. Alors, on s'y mettait très tard, on déjeunait tard, donc on lançait le pot-au-feu. Il était déjà 10h30, 11h, on passait à table à 14h, mais on s'en fichait. Le bouillon, comme ça, commençait à sentir, on traînait à l'apéritif. Enfin, c'était génial.
Vous dites d'ailleurs que les cuisiniers dont vous êtes sont des passeur d'histoire. Oui. Est-ce que c'est une histoire à la Lérins, ou une histoire à la pot-au-feu du dimanche midi, ou une troisième histoire que vous voulez nous raconter?
Les histoires sont plurielles. D'abord, c'est chacun raconte un petit peu son histoire. Et puis, je dis on est passeur d'histoire, surtout parce que on passe d'un producteur à un client. Nous, on est l'espèce de maillon de la chaîne comme ça, qu'allons raconter l'histoire du producteur à notre client en mettant une part de nous par-dessus cela. Mais les vrais artistes, ce sont les éleveurs, ce sont les agriculteurs, ce sont les maraîchers, ce sont eux qui se lèvent tous les matins à 5h30, 6h, qui prennent pas de vacances pour confectionner un produit magnifique. Donc nous, simplement, on se doit d'être garant de cette histoire-là.
Quel rapport avez-vous à la Seine, Stéphanie Lequellec? Votre restaurant s'appelle La Seine, le menu s'intitule Le Répertoire, il est divisé en actes avec un dénouement.
Alors, si ce n'est mon amour
quel rapport au théâtre,
C'était vraiment, pour le coup, cette idée d'amener un côté très scénique à la cuisine. C'est-à-dire que moi, j'ai amené en plein milieu de la salle du restaurant une cuisine ouverte. Alors, vous me direz, une cuisine ouverte, il y en avait eu avant, oui, mais souvent dans le fond d'une salle, souvent vitrée, souvent, c'était pas joué, justement. On cachait des choses. Nous, on cache rien aux clients. On est dans l'échange permanent. On peut se parler avec les clients pendant que je suis en cuisine, avec les deux, trois premières tables qui sont là autour de la cuisine. Donc, c'est merveilleux. Donc, oui, il y a un rapport très théâtral à la cuisine, et indépendamment du fait que je suis une amoureuse de théâtre également.
Stéphanie Lequellec, on va parler cuisine quand même. En plus, c'est le titre tout sobre du livre que vous venez de faire paraître.
Mon livre de cuisine. Cuisine. Facile.
Voilà, c'est ça. Il y a la cuisine deux étoiles à la Seine à Paris, et puis la cuisine, bon, plus accessible et plus du quotidien dans le livre qui vient de paraître. C'est quoi un bon livre de recettes de cuisine? Comment on réussit?
Je pense que c'est un livre dont on a envie de faire les recettes et dont les pages vont au fur et à mesure se tacher de gras, vous voyez. Moi, j'ai le souvenir comme ça des livres de cuisine de ma grand-mère où dans sa cuisine, la Bible était là et on ouvrait les pages et on en faisait les recettes. Aujourd'hui, on a beaucoup, pour les égos de chef d'ailleurs, souvent, et moi-même j'en ai fait partie, on sort des très beaux livres de cuisine, très statutaires, on met nos belles recettes qu'on sert au gastro. Mais les recettes, on les refait pas à la maison, donc ce sont des très beaux livres, mais c'est pas des recettes qu'on fait. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est peut-être d'ailleurs un retour à cette cuisine un petit peu que j'ai connue familiale avec ma maman et ma grand-mère. C'est l'envie surtout que les gens fassent de la cuisine à la maison, c'est-à-dire que la cuisine, ça se fait. Ici, on donne des recettes où il n'y a pas besoin. On peut travailler la journée et pas passer 3 heures en cuisine le soir. On donne des tours de main, des astuces.
Ça va de l'avocado toast ou de la poêlée de crevettes grises au financier,
oui,
à la noisette, à la crème caramel pour mamie.
Il y a du mijoté.
Ah oui, il y a le pot au feu, oui. Mais il n'y a pas le riz de veau au chou-fleur rôti à la harissa.
Ah non, celui-là, il faut venir le
faire. Ou le lièvre à la royale, qui sont parmi vos plats signatures.
Non, c'est important pour moi de ne pas être élitiste, en fait. C'est important pour moi qu'un chef, 1, 2, 3 étoiles ou médiatisé, reste extrêmement accessible. On fait des métiers d'artisanat, il ne faut pas oublier ça. Donc pour moi, c'est très important d'essayer de prêcher pour le bien manger à la maison. Enfin, je pense qu'on doit être vraiment acteurs de ça, nous les chefs. Hein.
Et comme vous ne pouvez pas accueillir tout le monde à cause des prix qui sont sans doute
restrictifs. Oui, encore qu'au bistrot, on est très accessible. Au bistrot, vous déjeunez pour 29 euros.
Et donc, quand même, faire un livre de recettes de cuisine, c'est partager avec encore plus de monde. C'est
partager avec encore plus de monde et c'est encourager les gens à cuisiner à la maison, dire non, c'est pas difficile, non, ça prend pas forcément du temps et non, c'est pas forcément très cher de cuisiner frais et bon.
Est-ce qu'il y a un produit que vous aimez particulièrement cuisiner?
Il y en a beaucoup, mais j'ai un affect particulier avec les produits de la mer d'une façon générale, les crustacés, la langoustine, les coquillages comme la Saint-Jacques, un très beau bar rôti à la cheminée, enfin voilà, les produits de la mer d'une manière générale et j'adore faire les sauces.
Une recette de sauce comme ça, là, dimanche midi, peut-être que ceux qui nous écoutent sont en train de cuisiner et ont envie de rajouter une sauce à la Stéphanie Lequellec dans ce qu'ils sont en train de faire.
Eh bien, écoutez, pourquoi pas un petit beurre blanc, simplement, on est dimanche
plutôt
matin.
Plutôt poisson, alors.
Plutôt poisson, on reste poisson, on peut avoir acheté... Même un petit filet de merlan, vous savez, c'est délicieux le merlan. Ça fait partie des poissons pas très chers et qui sont extraordinaires et qui sont de pêche durable et qu'on peut acheter sauvage, etc. Petit filet de merlan juste cuit comme ça, l'unilatéral, dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, 2-3 minutes sur une face. Et puis un petit beurre blanc, donc une échalote qu'on va ciseler, donc hacher finement, mouiller à hauteur avec un petit peu de vin blanc. On laisse réduire et puis on ajoute comme ça du beurre coupé en tout petits morceaux. Et puis alors mon secret, c'est d'ajouter 3-4 gouttes de sauce soja qui va venir intensifier la saveur du beurre blanc, donner de la profondeur de goût. Et voilà, et donc c'est une petite sauce qu'on bricole en 10-15 minutes sur le pot.
Voilà, la touche personnelle de Stéphanie Lequellec en plus avec la sauce soja. Merci beaucoup. Restez avec nous pour écouter la cerise sur le gâteau. D'autant que la cerise sur le gâteau aujourd'hui est un Himalaya journalistique, cher Pierre.
Oui, Caroline, on peut le dire, c'est même une montagne d'ennuis potentiel pour nos auditeurs.
Oui, mais non, vous allez nous le rendre passionnant.
Je vais donc parler de, attention, la politique agricole commune, la PAC. Alors ne partez pas, chers auditeurs, je vous jure que le sujet est essentiel et qu'il y a d'autres manières de le traiter qu'à travers l'interprétation des statistiques de la Commission européenne, selon la police ou selon les manifestants. En réalité, j'ai trouvé l'homme de la situation en la personne d'un très éminent journaliste du New York Times qui s'appelle Matt Apuzzo et qui fait partie du club très fermé des journalistes deux fois lauréats du prestigieux prix Pulitzer. La dernière fois, c'était en 2018, pour récompenser la qualité de l'enquête qu'il avait menée sur les liens entre la campagne électorale de Trump et la Russie. Dans la foulée, il est envoyé en poste à Bruxelles, où il en vient très vite à s'intéresser à l'un des plus grands programmes mondiaux d'aide aux agriculteurs, qui pèse 60 milliards d'euros, soit tout simplement 40% du budget de notre Union européenne. On s'en doute un peu, Matapuzzo n'est pas trop du genre à se contenter des centaines de pages de documents existants sur le sujet, pas plus que des discours formatés des politiciens européens. Il décide donc d'aller enquêter sur le terrain, voir qui touche quoi pour cultiver quoi. Et il est particulièrement intrigué par 9 pays, plutôt du côté de l'Europe de l'Est. Il s'y rend pendant des mois, y épluche les données des services d'urbanisme, observe les mouvements des terres, enquête sur les propriétaires, recoupe ces informations avec les tableaux des subventions européennes et publie, le 3 novembre dernier, le premier volet de son enquête qui sera suivi de 2 autres en décembre, provoquant un véritable séisme à Bruxelles. Je vous livre juste, Caroline, un extrait de ses conclusions. Les subventions agricoles européennes sont utilisées pour soutenir les oligarchies locales et produisent la version moderne d'un système féodal corrompu. Les aides et subventions sont ainsi captées par une poignée d'acteurs, élus ou proches d'hommes politiques, qui ont fait main basse sur les terres agricoles, auparavant exploitées dans le cadre des systèmes collectivistes de ces pays de l'Est. Ces dérives conduisent par ailleurs au maintien d'une paysannerie sans terre, exploitée par ces grandes structures agricoles. Rien que ça. Mais Matt livre également des noms. Et pas des seconds couteaux, en montrant par exemple comment Andrej Babis, président du gouvernement de la République tchèque et homme d'affaires dans le secteur de l'agroalimentaire, ou Viktor Orban, premier ministre hongrois, captent pour eux ou leur famille des fonds de la PAC. Son enquête a fait beaucoup de bruit, jusqu'à mobiliser, voici une quinzaine de jours, un certain nombre de parlementaires européens qui ont demandé quelques explications au nouveau commissaire européen en charge de l'agriculture, qui, ça tombe bien, est polonais. Alors, vous voyez que grâce à Matapuzzo, la PAC devient, à mon sens, assez simple. Il faut, le plus vite possible, oublier tout ce qui a été fait jusque-là et repartir d'une page blanche afin que tous les citoyens y comprennent quelque chose tout en militant pour l'impérieuse nécessité d'une Europe irréprochable. Et pour ceux de nos auditeurs, Caroline, qui seraient à Paris le 22 février prochain, eh bien Matapuzzo participera à un débat public dont on mettra les détails évidemment sur les sites des Bonnes Choses et l'Alimentation Générale.
Bien sûr, et nul doute que nous en reparlerons quant à nous dans les Bonnes Choses dimanche prochain, le 23 février, puisque se tiendra le Salon de l'Agriculture, bien entendu, et le Salon hors les murs, donc, d'Alimentation Générale. Merci beaucoup, Pierre et Verna, et merci à vous, Stéphanie Lekelec, de nous avoir accompagnés tout au long de ces bonnes choses aujourd'hui. Alors la Seine, c'est donc avenue Montaigne à Paris. Et puis pour toute la famille, pour tout le monde, Cuisine par Stéphanie Lekelec, paru aux éditions du Chêne. Retrouvez bien entendu les bonnes choses en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Roxane Poulin, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis, notre stagiaire de 3e, Alba Crenou, et notre technicien du jour, Jacques Hubert, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weissmann.